The brain is useless. We must find another brain.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma.
Les laboratoires du 7e art défient les salles obscures cette semaine, car nous avons décidé de construire une filmographie de 6 films, de 2 parties comme toutes les semaines, sur la proposition de Juliette qui nous a défié sur notre page Facebook et qu'on a décidé avec beaucoup de mental d'intégrer dans l'équipe pour cette émission et les autres, et évidemment répondre à un défi important. Les laboratoires du 7e art ont-ils fait des choses qui aujourd'hui défient encore la science et la croyance même qu'on peut avoir dans tous nos médecins? Parce qu'on est évidemment dans une période qui, de manière sociétale, défie la science et doute à peu près de tout, y compris d'un vaccin. Alors cette semaine, en 2 parties, les sciences médicales défiant l'étoile et la deuxième, les blockbusters au rendez-vous du défi de la médecine, de Frankenstein à Splice, en passant par les expériences interdites des années 90 de Joel Schumacher. Nous évoquons donc avec ces films si justement ils ont pu à un moment donné se rapprocher de la science et éventuellement proposer des solutions à l'avenir, et en tout cas envisager d'autres laboratoires très célèbres, des écrans et des plans serrés qui font un petit peu peur parfois, il faut bien le dire. Cette semaine donc, on commence avec Juliette, la première partie, en rendez-vous avec nous, et on retrouve Thomas dans cette deuxième partie pour évoquer des blockbusters. Vous retrouvez également la chronique, pas tout à fait dans le thème, de Mathieu en fin d'émission, consacrée à un monument du manga qui évoque lui aussi évidemment les laboratoires très célèbres de l'animation et du manga d'origine. Mais tout de suite, on commence l'émission avec notre critique, notre baby critique de la semaine, une minute avec Gabin qui lui est allé en salle. Juste après, vous me retrouvez avec Juliette et c'est parti pour Graffiti Cinéma.
C'était la veille des vacances de Noël.
Pousse-toi, Max.
Et la fête battait déjà son plein.
On voyage en famille et on a été mis sur des vols différents.
Maman,
Max, pitié.
Toute la famille est partie faire son voyage de rêve.
Tout le monde est sorti. On s'en va.
En oubliant une toute petite chose.
Maman, papa, oncle Blake,
ils doivent même pas savoir que je suis là.
Bonjour Gabin, on vient de regarder Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence sur Disney+. Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est bien, mais il y a des trucs que j'aime pas, comme et ça discute beaucoup.
Ça discute beaucoup.
Ouais. Ouais. Et en fait, ça discute un peu la grosse partie du film. Et il y a des trucs qui sont pas bien, comme en fait, d'habitude, c'est des voleurs, mais là, pas du tout. C'est juste des personnes normales.
C'est pas des vrais méchants.
Ouais, c'est pas des vrais méchants.
D'accord. Tu voulais rajouter autre chose?
Oui, je voulais rajouter que bah, y a pas d'avion. Il y a un avion, mais on le voit pas du tout.
Ouais, c'est embêtant.
En plus, il s'oublie dans une voie, il va dans la voiture et il regarde un truc dans la voiture et c'est comme ça. Il dort et on l'oublie.
D'accord, très bien. Bon, tu le conseilles ou pas?
Je le conseille aux plus grands, vers. D'ailleurs, qui peuvent attendre que ça discute et tout ça.
D'accord, très bien.
Les petits vont discuter,
ils vont peut-être s'ennuyer.
Ouais, voilà.
D'accord. Merci Gabin, à bientôt.
À bientôt.
Alors on commence notre balade pour parler des laboratoires qui deviennent fous sur les écrans, et j'ai particulièrement bien choisi mon lieu pour commencer cette émission en compagnie de Juliette. Salut Juliette.
Salut Romaric.
Alors on va te présenter évidemment Juliette, puisqu'on est au bar, évidemment c'est tout à fait cohérent avec les laboratoires.
Forcément.
Pour cette première séquence de l'émission. On vous le dit souvent dans l'émission sur notre page, n'hésitez pas à poster des thèmes, des propositions, et Juliette tu l'as fait, et on est très content de t'accueillir dans l'émission évidemment pour parler des sciences médicales que toi-même tu nous as proposé comme thème, un véritable défi à relever cette semaine.
C'est moi qui suis très contente déjà de rejoindre votre équipe, et puis c'était vraiment très intéressant de se plonger dans l'aspect vraiment scientifique des films. Est-ce qu'il y a un fond vrai, un fond possible sur certains films qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a rien de possible.
Alors on a une belle filmo en tout cas cette semaine, mais on va évidemment te présenter pour nos auditeurs, puisque justement si tu proposes ce thème-là, c'est parce que c'est un petit peu ton dada. Tu es technicienne labo justement, donc c'est un petit peu intéressant de voir que tu as une meilleure moyenne de SVT que nous. Ce qui nous aide pour ce thème cette semaine, hein, puisqu'on était un petit peu de galère, hein, non, on était sans spécialiste sinon.
Oui, enfin spécialiste, je suis juste une pro de la PCR Covid, hein, mais non.
Je n'ai rien compris à cette phrase. Bon, en tout cas, on va commencer notre filmo, évidemment, parce qu'on vous l'a dit, on vous la présente rapidement, cette filmographie de la semaine. On essaie toujours de garder 3-5 films maximum toutes les semaines dans l'émission. Évidemment, on va parler, pour parler des laboratoires et des savants fous, on s'est vraiment concentré sur les laboratoires cette semaine. Frankenstein de James Whale, James la baleine aussi, comme on dit en français. Ça, c'est la petite blague linguiste. L'expérience interdite de Joël Schumacher et son remake, évidemment, qui est un peu plus sinistre. Hollow Man de Paul Verhoeven, L'homme invisible de James Whale également, qui a tout fait en 1933. Ça, c'est pour notre première partie de l'émission qui sera consacrée aux nouvelles frontières des expériences médicales cinématographiques. En quoi les médecins représentent cette transgression suprême dans le 7e art dès les années 30. On aura une deuxième partie tout à l'heure avec Thomas notamment. Peut-on casser la frontière des labos avec des gros moyens et des gros budgets? On parlera notamment des blockbusters et des labos. Et là, on aura Peur Bleue de Rainy Harlin, La Planète des Singes et Splice de Vincenzo Natali en 2009. Tout de suite, on commence cette première partie dans Graffiti avec un petit extrait pour lancer le sujet.
The monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. Frankenstein.
Don't touch that.
En introduction, Juliette, justement, on voudrait parler de ces expériences médicales qui tournent mal. Pourquoi c'est important d'en parler dans le monde Covidé où des gens doutent encore de l'utilisation du vaccin qui peut sauver la planète entière de l'éradication? J'ai fait une grande phrase sans virgule, c'est volontaire, parce que finalement, on se dit que parler des sciences médicales dans une émission thématique comme la nôtre, c'est évidemment quelque chose de très sociétal. On doute de tout et on doute surtout de la science. Et comme du coup, on a eu des tonnes de polémiques évidemment sur le Covid, on imagine que la notion de conspiration qu'on étudiera dans des prochaines émissions, c'est évidemment quelque chose de central quand on parle de science et de labo, évidemment.
Ben, je pense que c'est aussi parce que toute avancée scientifique ou tout ce qui touche à la recherche, à la base, c'est des hommes. Et les hommes sont faillibles. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'on pousse le truc jusqu'au bout, quoi. Je joue avec mes petits joujoux et puis j'en fais... des petits monstres.
Justement, il y en a un qui est devenu tellement dingue en 1931, c'était complètement fou d'imaginer ce genre de créature, qui lui-même, on l'a confondu avec sa propre créature, qui est le docteur Frankenstein, puisqu'on le rappelle évidemment que l'adaptation du roman culte de Mary Shelley fait que Frankenstein n'est pas la créature. Hein. Arrêtez de nous embêter avec ça, on est en 2022 maintenant. Frankenstein, c'est le docteur, donc complètement dingue, qui décide de transgresser une frontière absolument dingue et totalement infranchissable déjà à l'époque, qui est celle de la mort, évidemment, de reconstituer un cadavre avec tous les morceaux qu'on peut trouver à droite et à gauche, avec cette phrase mythique que vous avez entendue dans l'extrait, « We must find another brain », on doit trouver un autre cerveau. Évidemment, lui, c'est pas parce qu'il aime bien les abats, c'est parce qu'il veut clairement fabriquer un nouvel être. Alors, on va en parler de ce film-là de James Whale, donc, qui est devenu évidemment mythique, iconique et qui a lancé une franchise. Il est également dans la vague des films vaudous qu'allait chercher Hollywood pour chercher de nouvelles cultures et de nouvelles façons de faire peur aux gens dans les années 30. On avait parlé de l'origine du zombie, hein, les tout premiers films de zombies, c'est en 1934. Mais là, on se concentre sur les labos. Frankenstein, en quoi, quand on travaille évidemment dans la science, c'est quelque chose d'incontournable, qui est devenu la figure iconique du savant fou par excellence?
C'est le savant fou parce qu'il fait passer ses propres ambitions avant le bien-être de l'humanité. Donc là, il veut vraiment... être Dieu, il se prend pour Dieu, on peut le dire carrément, parce que lui aussi il le dit dans le film, il veut le battre, quoi. Donc il est prêt à tout, jusqu'à aller prendre un cerveau d'un criminel, parce que bon, c'est un peu son assistant quand même qui fait une petite bourde, on va dire. Mais voilà, et il est fier de cette réussite, alors qu'il a tout pour lui. C'est le fils d'un baron, je crois, il a une promise, ils sont très amoureux, mais il est prêt à tout lâcher pour réussir, pour faire son monstre.
Voilà, on se rend compte.
Enfin, pour lui, c'est un homme, hein, c'est pas un monstre.
Mais... Pour lui, c'est un homme, même s'il a deux clous dans la tête et que visiblement le service après-vente n'est pas assuré. Frankenstein, c'est également cette transgression du roman gothique, hein, puisqu'on rappelle que Mary Shelley, c'est vraiment le premier grand roman gothique de l'histoire, donc qui est devenu évidemment iconique et qu'on conseille à tous nos auditeurs de le lire, parce que déjà, il s'y vite et il reste toujours d'actualité aujourd'hui. Et cette première adaptation prend vraiment l'expérience de labo en oubliant un peu l'arrière-plan. de Marie Shelley. Donc il y a vraiment une vraie différence entre le film et le roman. C'est pour ça qu'on vous le conseille, puisqu'il y a notamment toute une chasse dans le roman qui n'est pas.
Très bien tout ce qu'il fait pour créer son homme.
Voilà, il y a une vraie chasse à l'homme dans le roman qui n'est pas présente dans le film. Là, on se concentre vraiment autour des scènes du labo et de la crédibilité scientifique finalement. Alors moi, cette première question, c'est que elle est toute simple. Hein, en 1930, est-ce que on est en 2022, on peut imaginer aujourd'hui que quelqu'un arrive avec la technologie de notre époque à se rapprocher de ce que faisait déjà le docteur Frankenstein dans les années 30?
Alors au niveau de la résurrection, on en est quand même loin, c'est pas le but. Par contre, ce qu'on va essayer, c'est pas forcément de réanimer, mais de prolonger la vie un maximum. Et c'est surtout dans le cadre du don d'organes. C'est intéressant de poursuivre une activité cellulaire pour pouvoir offrir des organes à ceux qui en ont besoin quand une personne est décédée, plusieurs heures après le décès. D'ailleurs, en 2019, il y a des chercheurs de l'université de Yale qui ont réussi à refaire fonctionner l'activité cellulaire de 32 cochons qui étaient morts depuis plusieurs heures.
Ça, c'est assez dingue, quoi.
C'est assez énorme. Bon, bien sûr, par contre, le scientifique précise bien que ce n'est pas un cerveau vivant, c'est un cerveau cellulairement actif. Donc, ce n'est vraiment pas une résurrection, c'est un prolongement de la vie dans un but de don d'organes.
D'accord. Donc là, on voit qu'on a, en 2022, potentiellement un nanar qui peut se créer autour des cochons zombies.
Pourquoi pas ? Il y a déjà eu, je crois, une brebis zombie, non, un mouton.
Une brebis zombie, les castors zombies, les cochons zombies, Black Sheep, évidemment, qu'on conseille très vivement à tous les fans de nanars qui nous écoutent. Mais alors là, le cochon zombie, je t'avoue que je suis assez fan.
Pourquoi pas ?
Pourquoi le cochon, on parle pour le don d'organes ? Parce que, je me rappelle, hein, j'avais eu 5 de moyenne à ma meilleure moyenne de SVT, je le disais tout à l'heure pour faire la vanne, le cochon est l'animal qui est le plus proche de l'homme.
Au
niveau des organes internes. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, parfois, on a des dons trans-espèces.
Il y a des transplantations de cœur de cochon, d'ailleurs. Et je crois qu'il y a malheureusement quelqu'un qui est décédé il y a cette année, il me semble, justement, suite à sa transplantation, mais qui a vécu quand même avec quelques années.
Voilà, donc on est vraiment au cœur de cette science et on voit que Frankenstein fait des bébés finalement dans l'imaginaire, parce que souvent ce qu'on demande à tous ceux qui bossent dans la science scientifique, à tous ceux qui adorent ces thématiques là, on en parlait pour la Lune au cinéma, c'est est-ce que parfois le cinéma a un effet d'entraînement pour les scientifiques, de se dire, là on peut donner l'exemple du sable laser, de se dire mais le cinéma a inventé ça, la science doit arriver à le faire parce que c'est cool.
Ouais, alors je pense quand même que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la science qui inspire le cinéaste, et justement qui va s'intéresser bien souvent à l'homme et aux dérives que la recherche implique.
D'accord, la recherche avance en tout cas au cinéma, bâche parfois beaucoup plus vite que dans la réalité, et parfois c'est un petit peu galère. Et c'est vrai que cette symbolique trahison du médecin donc dans les années 30, parce que jusque dans ces périodes-là, le médecin était unanimement, le docteur, un personnage positif, et il est devenu, en tout cas, il a créé cette facette obscure qui vient compléter toute l'icône du médecin au cinéma à partir donc de ce docteur Frankenstein, à tel point que dans la culture populaire, on le disait tout à l'heure, il s'est confondu avec sa propre créature. Ça, c'est quelque chose de très important que va transgresser James Whale dès 1931 avec ce premier film Frankenstein. Mais on va voir qu'il y en a d'autres beaucoup plus proches de nous qui ont eux aussi refusé l'idée de la mort. Et on écoute un petit extrait, justement très instructif.
I don't wanna die. I wanna come back. The answers to death and life. I need you to bring me back.
I have no interest in watching you kill yourself.
Why are you doing this?
To see if there's anything out there beyond death.
It is reckless, immoral, and unethical.
Today's a good day to die.
L'expérience interdite de Joel Schumacher. Alors là, on peut dire que on a quelqu'un qui pilote, pour pas faire un jeu de mots tout à fait pourri, en 1990, un film qui va aller encore plus loin que ce qu'on évoquait, Juliette, avec notre premier film de notre sélection, qui était Frankenstein. Là, on va considérer qu'on va pas créer un nouvel être humain, mais on va refuser la mort. La mort qui arrive, on va lui dire non. Voilà. Et on va partir du principe qu'on peut aller jusqu'à transgresser l'idée de perdre son âme, sa conscience. Donc on est dans quelque chose, je dirais, peut-être beaucoup plus abstrait que Frankenstein, qui était beaucoup plus charnel finalement, qui était beaucoup plus organique dans les années 30, ce qui avait évidemment déjà choqué Frankenstein dans les années 30. C'est un véritable film d'horreur, hein, et là on pèse nos mots. Dans l'expérience interdite, on est plus sur la frontière morale de la mort et de ce que le cinéma peut faire pour ne pas l'accepter.
Bah, au final, on se rend compte dans le film que c'est parce qu'ils ont peur de la mort qu'ils veulent voir s'il y a quelque chose après, déjà. Est-ce que c'est ? Et ils disent très bien que la philosophie a échoué, la religion a échoué, et donc c'est autour de la science. Et c'est ce qu'il dit dans le film. Et donc qu'ils pensent que l'humanité mérite de savoir. Mais finalement, il se cache un peu derrière ses désirs personnels. Et au final, ça se finit quand même bien d'une certaine façon, parce que ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort, parce que ils subissent des épreuves et ils comprennent que la vie, c'est super important, qu'il faut y aller, qu'il faut être une bonne personne. Hein. C'est très moralisateur finalement comme film. Et il n'apporte pas les réponses aux questions qu'il se pose finalement.
C'est quoi ce bordel ?
C'est une expérience. Elle voulait qu'on la mette en arrêt. On n'arrive pas à la ramener.
Ça fait combien de temps ?
J'en sais rien. 2 ou 3 minutes.
Moi, je dis on tente les palettes. Non, non. Attends. Repose ça. Remplace Sophia au massage cardiaque. Sophia, mets-lui la couverture réfrigérante. Elle est en hyperthermie. Ensuite, charge le défibrillateur à 360 et tiens-toi prête. Dès qu'on a récupéré une activité cardiaque, même irrégulière, tu lui mets les palettes et t'envoies le jus à puissance max. Allez. S'il te plaît, Courtney. Elle est en hypoxie.
Parce que c'est vrai que l'expérience interdite raconte un peu cette aventure donc de jeunes, plutôt scientifiques, qui essayent également de se faire un nom. Et il y a encore cette démarche très narcissique que le docteur Frankenstein faisait lui-même dans les années 30.
Oui, c'est être quelqu'un.
Voilà, exister avant prendre le pas sur ma propre science. Alors qu'on constate que la démarche scientifique, quelle qu'elle soit, c'est être resté dans l'ombre par rapport à son domaine la plupart du temps.
Oui.
Et cette recherche à la notoriété, évidemment quelque chose de très moraliste, on voit qu'on a évidemment les mêmes thématiques que ce qu'on a essayé de faire dans les années 30, mais on va essayer de toucher ici à quelque chose déjà de beaucoup plus, peut-être pas numérique, mais en tout cas beaucoup plus. Enfin, je parlais d'abstraction tout à l'heure, je voulais pas me répéter, mais quelque chose qui est beaucoup moins perceptible. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans l'imaginaire absolu et on voit qu'on commence à toucher aux aires numériques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui.
Et au final, c'est très universel comme quête, parce que c'est une question qu'on se pose tout un chacun. C'est pas que les scientifiques, c'est pas que le médecin qui se pose la question, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort, quoi. Est-ce qu'on a une âme? Est-ce qu'on survit? Est-ce qu'on voit ce qui se passe après notre départ? Voilà, donc c'est ça qui est aussi très intéressant, en tout cas dans l'idée du film, parce qu'après, le film en lui-même n'apporte pas ces réponses-là. Et, voilà, ça part sur des quêtes personnelles, mais...
On peut faire un parallèle, parce qu'évidemment, Juliette, on va faire, nous, évidemment, le regard scientifique qu'elle tient sur l'expérience interdite, est-ce que c'est possible ou pas, mais on peut directement faire déjà un parallèle sur ces scènes de laboratoire dans le cinéma, parce que c'est notre thématique cette semaine, avec Johnny s'en va en guerre, de Dalton Trumbo, qui, dans les années 70, parce qu'on a fait un énorme saut de 1930 à 1990, mais il y a un film vraiment qui est un peu à la charnière de ces deux-là, donc Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo, où vous avez un soldat qui perd les deux bras et deux jambes et qu'on va maintenir en vie parce que lui il est en vie mais il peut pas le communiquer. Et ça va être un film absolument poignant. Alors là pour le coup ça va être un très très bon film également de cette filmographie. Je dirais que l'expérience interdite à côté va être beaucoup plus léger, mais c'est chacun y voit midi à sa porte. Ce film-là de Dalton Trumbo va raconter de l'acharnement thérapeutique où on voit constater quelqu'un est encore en vie. Est-ce qu'on doit, oui ou non, garder en vie? Et là, encore une fois, le cinéma essaie d'y répondre avec ses moyens qui sont très importants, parce qu'il y a évidemment le discours antimilitariste derrière de Dalton Trumbo qui est vraiment très important. Cette question-là, elle est essentielle. Est-ce qu'on maintient en vie ou pas? Évidemment, elle parle à nos sociétés actuelles, puisque c'est des vrais débats sociétaux. Hein. Il y a même des lois aujourd'hui.
Il y a eu Imbert, je crois, récemment dans l'actualité. Enfin, récemment, il y a quelques années déjà, mais... Oui, et c'est une question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'on ferait face à cette situation? Moi, je n'ai pas la réponse pour moi.
Non. Et puis en plus, on n'est même pas là pour la donner, parce que c'est une vraie question intime. Voilà. Mais la vraie question à laquelle nous, on peut accéder, c'est que dans l'expérience interdite, ce labo-là est assez proche de celui de Frankenstein. C'est-à-dire qu'on va avoir des sciences qui sont mises en avant. Il n'y a que dans les films, d'ailleurs, où les ordinateurs et les appareils électriques font bip-bip. Dans la vraie vie, ça n'existe jamais, ça. Ça serait hyper
Ils font du bruit quand même. Hein. Il y a des petites alarmes et tout, et c'est très bruyant. Hein.
C'est super pénible. Moi, franchement, si j'avais les appareils qu'ils ont dans leur labo, mais je casserais tout au bout de 2 minutes. Hein. Et vous cliquez sur un truc, ça fait zouik. C'est hyper agaçant. Hein. Je pourrais pas. Et on voit que le laboratoire est, je dirais finalement, peut-être par provocation, une sorte de temple, temple de la technologie, du modernisme, dans lequel on va dire, regardez notre belle science, c'est l'écrin dans lequel nous sommes, notre labo. Et il y a quelque chose qui me faisait penser, évidemment, à un sacrifice rituel des cultures ancestrales, dans l'expérience interdite, moi qui m'a toujours évoqué ça. Est-ce que c'est possible ou pas de transgresser la mort? Parce que dans les années 30, avec Frankenstein, transgresser la mort, c'est quelque chose de très universel. On a peur de la mort, on n'arrive pas à la franchir, à passer outre. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, la médecine, elle est capable de refuser le signal de la mort?
refuser le signal de la mort, c'est peut-être un petit peu fort, mais oui, on peut. Il y a des gens qui sont cliniquement morts pendant même des fois quelques minutes et qu'on arrive à réanimer et qui derrière n'ont pas de séquelles. Alors bien sûr, il faut que le cerveau soit irrigué, tout ça, mais oui, c'est possible encore. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les expériences de mort imminente.
Les expériences de mort imminente, c'est très intéressant. Tu vas nous en dire peut-être quelque chose, parce que c'est quelque chose qui est très cinématographique dans l'expérience intime.
Oui, c'est, et puis dans l'expérience interdite, justement, dans le film, dans les deux films d'ailleurs, chacun a sa propre expérience de mort imminente, finalement. Ce qu'on se rend compte en France, en tout cas, c'est que pour 56% des personnes, ils éprouvent des émotions positives, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit surtout des rencontres avec la mort, le tunnel, le fameux tunnel, la sensation de sortir de son corps qu'on trouve aussi dans les traumatismes, par exemple, en cas de viol, oui. Les personnes peuvent éprouver aussi cette sensation, et la lumière intense. Mais par contre, ces expériences, elles sont différentes selon là où on vit.
D'accord.
En Occident et en Orient, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Par exemple, en Inde, il n'y a pas de tunnel. Personne ne voit de tunnel. Par contre, pour 50 à 80% des personnes, eh bien, ils rencontrent un homme qui a un livre et qui les renvoie chez eux parce qu'ils n'ont pas la bonne identité.
C'est hallucinant parce qu'on voit à quel point la culture...
Voilà, il y a un impact culturel sur ce qu'on vit dans l'expérience de mort imminente.
Et ces récits-là qu'ont rapporté ces personnes-là, qui sont évidemment plus ou moins de bonne foi, la plupart sont de bonne foi, évidemment il y a eu beaucoup de canulars, on ne va pas s'en cacher, mais ces récits-là sont devenus à part entière des contes, et après le cinéma et la fiction, toutes les formes de fiction ont dû s'en emparer, on voit à quel point ça a été un défi de les mettre en image, et qu'en 1990, ce film de Joel Schumacher, alors là, sans blague, a également fait scandale, hein,
oui.
Parce que déjà, Frankenstein, on le disait, c'était une transgression ultime. En 90, le fait de refuser la mort et de le faire de cette façon-là, de manière très narcissique, pour se faire une carrière, il y avait un discours totalement cynique qui était également celui de l'Amérique réganienne. Hein. 90, on avait franchi une décennie américaine totalement dingue avec des héros, des actionnaires et bodybuildés. On refuse la mort parce qu'on a envie de vivre et on a envie de dominer les autres. L'expérience interdite, ça raconte également ça. Alors, on veut pas de fin.
C'est là où le remake pêche un peu parce que les expériences sont presque trop douces, trop banales, même cinématographiquement. Visuellement, elles sont pas aussi intenses. On n'a pas la même intensité que dans le film de 1990, quoi, clairement. Et c'est vrai que du coup, le film pêche grandement là-dessus.
Le film est beaucoup plus fade, le remake. C'est vrai que on le voit, on l'oublie. Alors que l'expérience interdite avait vraiment marqué pour le premier un avant, un après. On s'est dit maintenant on peut attaquer ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui a osé. Il a eu quelque chose d'assez pionnier. C'était paradoxalement, c'est peut-être pas un immense film de Joel Schumacher.
Non, mais
la transgression était là. Et cette idée folle du labo de refuser la mort, on voit qu'une génération en génération, beaucoup se passent le flambeau de manière différente. Cette fois-ci, on va voir avec le dernier film de notre première partie que le scientifique le plus mauvais reste souvent le plus crédible, en tout cas par certains aspects. On ne va pas non plus généraliser, si vous faites de la science, ne nous envoyez pas de courrier de plainte. On va parler d'un truc complètement dingue, refuser maintenant d'être une image, ce qui est également un défi complètement fou pour le cinéma.
Chute du rythme cardiaque, 170, 160, 150.
Inversion de phase bioquantique effectuée à 18-26.
Est-ce qu'il va bien ?
Oui, le choc bioélectrique est intense. Ça provoque un évanouissement.
On a un retour à la normale. Tension 13,7,5, cœur 110, ça redevient stable.
Tracé quantique normal.
L'activité électrique se stabilise.
On en parlera à nos petits-enfants.
Le cœur est stable à 85. Ici. Tu es le premier.
Alors, le cinéma est un art d'image. Hein. On voit 60 images par seconde. Enfin, en tout cas, beaucoup d'images par seconde. Combien on en voit maximum ?
Oh, je ne sais pas.
C'est un test. C'était pas les anciens, en fait.
Oh, c'est pas gentil.
En fait, tu n'es pas du tout une scientifique. Alors, le fait de ne pas avoir d'image, et c'est une frontière absolue pour le cinéma. On parlait de le fait de ne pas avoir de vie, de refuser la mort. Maintenant, avec les derniers films, vous...
C'est être transparent.
C'est être transparent et c'est ne pas exister d'un point de vue cinématographique. Là, on va évidemment parler de Holoman, de Paul Verhoeven en 2000, de L'Homme Invisible, de James Whale, encore James La Baleine en 1933, et de Lee Whannell, le remake, le 50e remake, parce que c'est un sujet qui est devenu très, très, très générationnel.
Moins Frankenstein, mais...
En 2020, voilà. Frankenstein, c'est compliqué, évidemment, parce qu'on va voir que c'est très marqué dans cet univers gothique, et alors que là, pour L'Homme Invisible, il y a également
Domaine du fantasme. Il y a une évolution dans le fantasme, voilà. Oui.
On peut également citer la série de L'Homme Invisible, qui dans cet univers de l'invisibilité sur les écrans et dans les séries est le seul personnage invisible qui a été positif.
Oui.
Tous les autres sont des raclures absolues parce qu'ils franchissent une frontière de l'image, ils décident par petites touches de devenir cette personnalité qui peut tout faire, et on le voit très bien également avec Paul Verhoeven en 2000 que Kevin Bacon devient affreux, quoi.
Oui, il dit, c'est pas croyable ce qu'on peut faire quand on n'a plus besoin de se regarder dans un miroir.
Bon, c'est un des fantasmes absolus, on parlait de la mort, on est peut-être beaucoup plus loin de l'invisibilité que de refuser la mort.
Oui.
Parce que là, on est dans quelque chose d'absolument dingue en termes de science, puisqu'il faut réfléchir absolument toutes les images, il ne faut pas exister. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué à quantifier ou à nommer en termes de science.
Bah oui, là on est vraiment dans la science-fiction, en tout cas sur le sérum d'invisibilité. Mais c'est quand même quelque chose qui date depuis très longtemps, parce que Platon racontait déjà la légende de Gigès, c'est très difficile à dire.
Alain Gigès, joueur de France.
Non. C'était un simple berger, et lui il devenait invisible grâce à un anneau.
Ah bah, tranquille.
Comme Frodon. Et
comme
Bilbo.
Frodon. Attends, tu es en train de me dire que Tolkien a tout pompé chez Platon ?
Je sais pas, je me suis posé la question quand j'ai découvert ce petit mythe là, et donc forcément il
n'est
pas devenu non plus une bonne personne.
C'est philosophique, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, donc dans l'expérience interdite qui parlait de la mort en disant que la philosophie a échoué, la science va essayer de transgresser ça. On voit que dans cette logique de science, c'est quelque chose qui voit le cinéma se comporter comme une science et dire bah, nous aussi on va relever le défi, on va essayer d'arriver à mettre ça en scène et de vous montrer ce qu'on peut arriver à faire. Le cinéma qui se voit peut-être ici comme une science pauvre par rapport aux grandes sciences que sont la médecine et qui essaie de mettre ça en scène. Et ce fantasme-là, il est complètement dingue parce que ça n'a pas toujours donné des grands films, on peut le dire, mais pourtant, il y a la densité de films sur l'invisibilité montre bien qu'il y a toujours une demande des spectateurs pour voir ça.
On trouve même avec la cape d'invisibilité chez Harry Potter. C'est... voilà, qu'est-ce qu'on ferait si on était invisible, quoi ? C'est toujours la même question. Et c'est vrai quand même qu'on a plutôt des exemples de personnes qui agissent mal, qui perdent tout sens moral. C'est crescendo. Et en même temps, dans le dernier film donc, de 2020, Invisible Man avec Elisabeth Moss, par contre, là, le point de départ est différent parce qu'on se base plutôt sur le point de vue de la victime. On pourrait... Alors, je trouve que le film est dommage à ce niveau-là, parce qu'on pourrait se demander si elle n'est pas folle, finalement. Mais on a trop d'indices pour nous dire qu'il y a un homme invisible. Déjà, il y a le titre, bon, d'accord, mais même au niveau de comment c'est tourné, c'est dommage parce qu'on pourrait avoir cette suspicion. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, au niveau de la technologie, c'est celui qui est le plus proche de ce qui peut se faire actuellement. Au final, là, on a plus une critique sur ce qu'est le harcèlement.
Bien sûr. Ouais.
Voilà. On va moins s'intéresser à la personne dotée d'invisibilité plutôt qu'à sa victime et qui subit un harcèlement, et le harcèlement qui se poursuit même quand on s'échappe. Voilà, on est sur la paranoïa finalement de la victime.
À chaque fois, on voit également que c'est un docteur là pour le coup qui est victime de sa propre expérience dans l'homme invisible, ce qui est alors indirectement c'était le cas pour Frankenstein et Expérience interdite, mais il est beaucoup plus acteur dans le sens où c'est la première victime de l'invisibilité qui devient ensuite un atout.
Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas que l'invisibilité, on a l'impression qu'ils ont aussi un sérum qui tire d'eux le moins bon, quoi, finalement. Dans Holoman, il va jusqu'au viol et jusqu'au meurtre. Il va aussi au meurtre pour le premier en 1933. Mais c'est une déviance complète.
Et le premier film de James Whale en 1933, il est entièrement bandé, évidemment, parce qu'on n'est pas en mesure à l'époque de représenter...
Les effets spéciaux magnifiques.
Voilà. Et ça, ce qui crée des passerelles avec les films de momies et tout l'univers, je dirais, un petit peu ésotérique qu'on essayait de mettre en avant à Hollywood dans les années 30, donc que ce soit les cultures vaudou avec les premiers films de zombies en 1934, et les films de momies, évidemment, avec Boris Karloff, qui est devenu absolument incontournable dans ces franchises-là. Le fait qu'il soit intégralement bandé pour reprendre un corps, parce qu'il n'a plus d'image, et donc il doit retrouver une enveloppe charnelle, en quelque sorte, créer ces passerelles-là. Pour le film de Holoman avec Paul Verhoeven en 2000, cette transgression-là, elle est totalement absolue. Parce qu'il y a notamment cette scène absolument géniale où il plonge dans une piscine pour retrouver également cette enveloppe corporelle. Ça devient un défi cinématographique, iconique, également que scientifique, hein, parce que on va le dire aujourd'hui, la science elle n'est pas en mesure de nous rendre invisibles, c'est relativement galère d'être invisible, à moins d'être ninja, mais ça c'est un débat.
Non, c'est vrai que dans 1933, donc c'est les bandelettes, quand ils les enlèvent, c'est magnifique.
C'est un peu gênant, oui. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui on dira que ça sera plus poétique, mais ça a été un temps gênant.
Ça va être les traces de pas dans la neige. Oui, alors que magnifique. Holoman, donc il va y avoir l'eau, comme tu dis, il va y avoir la fumée, la brume qui va
ces effets-là sont... prendre corps. Ils vieillissent très bien. En 2022, le film date de 2000.
Car aujourd'hui, les effets spéciaux sont magnifiques. Même quand le gorille reprend sa visibilité, c'est vraiment très très beau comme film au niveau des effets spéciaux.
On en est à combien?
Près de 17 heures. Et on a probablement assez de données pour occuper deux vies. C'est le meilleur des mondes, Lynn.
Je n'arrête pas de regarder dans le vide en me demandant s'il est bien là. Tu as vu ça?
Sébastien, est-ce que...
Ah, nom de Dieu! La lumière! Et ton s*** de lumière!
Je peux plus fermer les yeux.
Tu peux, mais tes paupières sont transparentes.
C'est bizarre. Je me sens le même, mais je suis plus là.
Tu es encore là.
Sébastien?
Ici.
Où ça?
Devant le miroir. Je me regarde.
Plutôt, je ne me regarde pas.
Alors, la science, justement, est-ce que tu as quelques billes pour nous dire si on est en mesure, à un de ces quatre, de se dire bah, « Tiens, je vais être invisible parce que j'ai envie d'aller tranquille sans payer à un concert de Kinvé, par exemple.
» Alors, pour être invisible, il faut être transparent et ne pas réfléchir la lumière. Okay. Donc, ça ouvre trois pistes. La première piste, c'est certainement la plus fantasmée, c'est d'être soi-même transparent, donc vraiment le sérum d'invisibilité.
D'accord, bon ça c'est une première piste.
Donc ça a été fait sur une souris en 2014, en remplaçant tous les lipides qu'elle contenait par de l'hydrogel.
C'est un peu agressif pour le corps ça, non?
C'est un petit peu agressif, puis c'est un petit peu définitif.
Ah
quoi.
Bah ça y est.
Donc bon, là on en est loin, hein. Faut pas essayer, si on veut rester vivant, sauf si on veut tester l'expérience de mort imminente et tout ça. Quoi.
Mais, ne mettez pas d'hydrogel dans votre corps,
voilà,
c'est mal.
C'est pas terrible. Mais on est plutôt du coup sur de la cape d'invisibilité, comme Harry Potter. Ils ont conçu des métamatériaux, donc c'est des matériaux qui n'existent pas dans la nature, qui permettent justement de ne pas réfléchir la lumière. Donc en protégeant un objet ou un corps par ce matériau, eh bien l'objet devient invisible finalement. D'accord. Et après il y a l'aspect plus camouflage. Donc là ça va être avec des impulsions, des champs électriques, mais du coup ça se prête à un environnement précis, ce sera plus spécifique. Mais voilà, la cape d'invisibilité, on n'est pas loin. C'est pour ça que je disais que le film Invisible Man de 2020 était vraiment pas mal, parce qu'on voit en plus sa combinaison avec justement les petites facettes réfléchissantes. Voilà, après, on peut se dire, bon, à un moment, il lui balance de la peinture, d'un seul coup, il en a plus sur sa combi. Oui. Voilà, mais au niveau de ce qu'on peut faire en science... C'est ce qui est le plus proche aujourd'hui.
Bah c'est très bien en tout cas de voir ces premières frontières, donc des expériences médicales cinématographiques en ta compagnie, parce que c'est notre première partie et c'était vraiment important vraiment de mettre ça en avant, de se dire qu'il y a des frontières ultimes pour le cinéma, la mort et l'image, et que dans les labos, on a en tout cas beaucoup bossé, hein, la recherche a avancé. On voit qu'au niveau de la science, il y a encore un petit peu évidemment de recherche à faire, mais ça c'est un défi dont on évoquera dans la deuxième partie, parce qu'on va voir que justement après la pause musicale, quand on te retrouvera avec Thomas, bah, les blockbusters et les labos, quand on a un peu plus de sous, forcément on va plus vite. Hein. Donc peut-on casser la frontière de ces labos avec des gros moyens et des gros budgets? On parlera de Peur Bleue, de la planète des singes et de Splice notamment, qui est très intéressant parce que là on parlera notamment de croisement d'espèces. Et tu nous évoqueras une espèce qui est apparue sur Terre. On va le mettre en petit teaser avant la pause musicale, il s'appelle le gros lard.
Le gros lard.
On va en parler juste après. A tout de suite.
Come on, here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Come on down and see the idiot right here, too fucked to beg and not afraid to care. What's the matter with calamity anyway? Right, get the fuck out of my face. Understand, I can't feel anything. It isn't like I want to sift through the decay. I feel like a wound, like I got a fucking gun against my head. You live when I'm dead. People equal shit. People equal shit. People equal shit. People equal shit. Come on. Now, so fuck it. Blood on my face and my hands, I don't know why. I'm not afraid to cry, but that is none of your business. Overdo it, don't tell me you blew it. Stop your bitching and fight your way through it. I'm not like you, I just fuck up. Come on, motherfucker, everybody has to die. People equal shit. People equal shit. People equal shit. People equal shit. People equal shit.
What you gotta do?
People equal shit.
I'm not afraid of you.
People equal shit.
Everything will ever be.
People equal shit.
Nous voilà donc après la pause musicale dans cette dernière partie de Graffiti Cinéma. Cette semaine, on parlait des sciences médicales. Est-ce que les labos sont aussi dingues, en tout cas dans la réalité, que dans les films? Vous avez entendu donc cette première partie, on était avec Juliette dans les bars. Et cette fois-ci, Juliette est à la maison. On la retrouve pour cette dernière partie enregistrée en ligne le 15 avril. Salut Juliette.
Salut Romary.
Voilà, qui enregistre donc de la station Mire, hein, Juliette, on peut le dire. Qui
exactement.
Et également avec nous Thomas, qui nous rejoint pour cette dernière partie.
Salut.
Alors, au programme de cette dernière partie, on va parler évidemment de croisement, de manipulation génétique et surtout l'angle des blockbusters et des gros moyens des blockbusters. On se quittera tout à l'heure dans une dizaine de minutes avec le quiz des savants les plus cons de l'histoire du cinéma. Moi, je voulais tout de suite commencer parce qu'on avait fini justement cette première partie, Juliette, justement nos chroniques, sur le mythique gros lard, le dossier du gros lard. Alors, le gros lard, c'est clairement un croisement génétique qui va nous permettre de parler d'un film de Vincenzo Natali. Mais avant, il faut que tu nous en dises plus, quoi. C'est un animal, le gros lard.
C'est un animal. En fait, ce qu'on appelle un hybride, c'est les animaux qui sont issus de l'accouplement de deux espèces animales différentes.
Voilà.
Bien sûr, la plupart du temps, c'est provoqué par l'homme. Il y a le ligre, par exemple, qui est le lion mélangé avec un tigre. Donc ça, on le trouve dans quelques zoos, mais c'est un animal qui est très peu adapté, même pas du tout. En fait. Et en fait, dans la nature, toujours un peu à cause de l'homme, eh bien, à cause du réchauffement climatique, les grizzlies et les ours polaires se rencontrent de plus en plus souvent. Et puis, ils s'amusent un peu. Et le descendant d'un grizzly et d'un ours polaire, c'est soit un prizzly, selon le papa ou la maman, soit un gros lard.
Ce qui nous amène à parler d'un film. Voilà, Thomas.
J'ai pas pensé à ça, parce que moi, j'ai cru que c'était un grizzly et un homard. Je me dis que ça faisait un gros lard. Par contre, c'est l'accouplement que j'imagine moins, quoi.
Ouais, non.
C'est aussi... Voilà, c'est ça. C'est peut-être plus compliqué.
Dans tous les cas,
mais c'est une espèce qui prolifère de plus en plus, du coup.
Et voilà.
Attention.
Tout le monde s'écarte.
Chargé.
Rythme cardiaque stable. Si nous n'utilisons pas l'ADN humain maintenant, d'autres le feront.
Les politiciens et les bien-pensants nous mettraient littéralement en pièces.
Des dizaines de millions de personnes sont en train de souffrir et meurent dans le monde. Où tu places ta question d'éthique là-dedans?
C'est illégal ce que tu fais. On risque la tôle.
C'est le clonage humain qui est illégal. Ça sera qu'à moitié humain. Ça fait la différence. Il sort.
C'était pas prévu avant des mois.
C'est visqueux.
Qu'est-ce que c'est ?
Une erreur.
Alors, il y a une autre espèce qui prolifère, c'est les films qui prennent beaucoup de liberté avec la science, parce que là, on parle des blockbusters et des labos, et ça nous permet justement, ce mythique gros lard, de parler du film de Vincenzo Natali en 2009, qui est Splice, qui nous raconte l'aventure, en fait, de deux laborantes, hein, comme certains dont on a parlé dans la première partie, hein, digne descendant du docteur Frankenstein, qui décide de mettre au point en labo une nouvelle espèce, et une espèce relativement flippante, alors pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a tendance à vouloir s'imposer au détriment des humains, ce qui est relativement agressif, et la deuxième parce qu'elle est incarnée par une actrice française qui avait rien à foutre là, qui jouait surtout dans beaucoup de téléfilms, qui est Delphine Chanéac. Ça, c'est une pure vacherie que je balance de manière gratuite.
Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'elle ne parle pas dans le film.
Oui, qui ne parle quasiment pas dans le film. Alors évidemment, c'est improbable de l'avoir au casting d'un film de Vincenzo Natali, mais c'est assez rafraîchissant de l'avoir dans ce film-là. C'est un film qui est...
Non, mais elle est exceptionnelle dans le film, il faut lui rendre ça quand même.
C'est ça, exactement, parce que c'est celle qui a le plus de maquillage, parce qu'elle joue justement une créature qui est hybride, humain et autre chose. Alors très exactement, c'est pas de la manipulation génétique, hein, ce que tu nous disais quand, avant qu'on lance l'enregistrement, c'est que c'est autre chose.
C'est de la recombinaison génétique, donc on va mélanger plusieurs ADN, donc humain, il y a du poisson, il y a de l'oiseau, il y a des insectes. Et on met ça dans un utérus artificiel pour créer un embryon, quoi. C'est un peu la vraie nature, mais en laboratoire, in vitro.
Splice, on peut le raconter, hein. C'est vrai que c'est un film vraiment assez intéressant là-dessus, parce que ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est qu'on a donc des laborantins avec un seul labo, pas des moyens démesurés évidemment, mais qui arrivent à avoir des ambitions totalement folles en matière de science. Hein. Thomas, on a vu le film, je veux dire, se dire que deux personnages dans un labo arrivent à faire ça, c'est relativement dingue. Ça paraît même totalement improbable.
Et surtout que la construction, la création justement de ce que je vais nommer de créature, pour le coup, ça a l'air assez crédible. Beaucoup plus évidemment que Frankenstein, une sorte de recombinaison sans stérilisation, sans rien, on appuie sur un bouton, il y a de l'électricité, paf, ça marche. Et puis, bon, alors après, c'est vrai que les réactions de la scientifique, elle sait pas ce qu'il y a dedans, elle sait pas comment ça va marcher. Bon, je vais mettre ma main, quoi, hein, évidemment, quoi. C'est vraiment c'est le truc que tu fais, quoi. Ah ben, il m'a piqué.
C'est vrai que, par contre, Splice, on peut le dire, donc Vincenzo Natali est très connu pour avoir fait Cube, alors qu'il n'est pas un truc de laborantin, qui est un vrai film de science-fiction, on pourrait même dire une sorte de dystopie.
Ben, surtout, effectivement, le départ de l'expérience scientifique de départ a l'air très crédible. On sent que c'est possible. De faire ça, et il manque quelques moyens pour que ça soit possible. On se dit même que peut-être il y a des savants comme au moment de Dolly, je sais pas si vous vous rappelez du clonage, alors c'est pas exactement la même chose, hein, ouais. Mais qu'on avait ce savant italien dont j'ai pas le nom là, qui disait moi c'est possible, je peux le faire avec des hommes, on a toujours ce fantasme que dans un laboratoire secret, sans spécialement avoir une intention malveillante, il y a des scientifiques qui fassent ce type d'expérience, quoi.
Et que ils commencent d'ailleurs à le faire à l'heure actuelle. C'est toujours dans un souci de don d'organes, hein, mais ça commence à se faire. Alors par contre, il y a des contraintes éthiques, hein, bien sûr. Mais au Japon, là, en 2019, ils ont eu un accord pour mélanger des cellules humaines avec des cellules animales. Donc, bientôt, on va avoir un petit Ratman ou un petit Pigman.
Pour le cinéma, c'est très intéressant parce qu'on voit que là, dans la partie qu'on évoque maintenant, on n'a pas forcément les plus grands films de la filmo de notre semaine. On va notamment en arriver...
Ouais, mais Splice, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un mauvais film.
Splice,
il a des défauts,
pas mauvais pour autant.
Clair. Oui. Il est, et en fait, les gens se focalisent sur la partie horrifique alors qu'il y a toute une critique... Enfin, une critique, une analyse de ce que c'est que la parentalité, de l'arrivée d'un enfant dans un couple, du désir d'enfant ou du non-désir d'enfant. Et il y a plein de choses dérangeantes. En fait, Splice, c'est pas un mauvais film, c'est un film qui n'est pas abouti.
Oui, non, voilà, je parlais pas de mauvais film, hein. Je disais que c'était pas les meilleurs de notre filmo, parce qu'on a quand même des classiques dans la première partie, dont Frankenstein. C'est clair que là, on n'est pas non plus.
Effectivement, par rapport à Frankenstein, voilà.
Mais c'est vrai que cette esthétique-là fait plus penser à un téléfilm, finalement, aujourd'hui, qu'à du cinéma comme on aurait dans des très grands studios. Mais je pensais vraiment à l'esthétique.
C'est dur quand même.
Non, mais l'esthétique numérique où on tâtonnait encore en 2009 sur ces sujets-là. On sentait vraiment qu'on commençait à à dégoiser quelque chose. Après, au niveau du script, c'est vrai qu'il y a des questions très profondes qui sont posées, d'où l'intérêt de l'évoquer aujourd'hui. Thomas, un dernier mot peut-être sur Splash.
Quand même, oui.
Pardon.
Surtout au début, où toute la première partie vraiment plus scientifique, et sur les questions que eux ils se posent. Je pense que c'est vraiment la meilleure partie du film. Après, effectivement, on sent qu'il faut que le film se termine. Il faut trouver un point de chute.
Voilà.
Et que bon, quand tu bascules dans l'aspect horreur, bon, l'aspect horreur est cool à voir. Il est moins, je le trouve moins.
Ouais, c'est intéressant. Moins prégnant. Ça marche moins.
Quoi. C'est moins intéressant parce que on retombe dans quelque chose qu'on peut déjà avoir déjà vu. Par contre, toute la première partie. Sur les relations entre les deux scientifiques, entre celui qui veut absolument faire l'expérience et l'autre qui aurait des réticences, mais qui quand même se laisse convaincre. Il lui faut pas grand chose pour être convaincu finalement. Adrien Brody, il faut pas grand chose pour le convaincre.
Oui, les barrières tombent vite, quoi.
Voilà, les barrières tombent vite. On pourrait se dire, mais lui, il pourrait avoir un beaucoup plus un plus fort rôle en disant mais non, on peut pas faire ça, attends, on a éthiquement on n'a pas le droit de le faire, ça c'est pas possible, il faut qu'on s'arrête, quoi. Et il se dit évidemment qu'on n'a pas le droit de le faire, mais lui, il a envie de savoir, elle est toujours là, l'envie de voir ce qui va se passer. Donc sur cette première partie là je la trouve effectivement bien réussie. Pour nos auditeurs, il est disponible sur Prime Video. Vous pouvez le voir avec votre abonnement Prime, donc c'est facile de vous faire une vraie idée sur ce qu'on est en train de dire pour le coup.
Alors, les manipulations génétiques sont-elles toutes aussi dingues qu'au cinéma? Parce que c'est vrai qu'il y en a un paquet de vraiment folles, hein. Bon, même si c'est de la reprogrammation génétique ou je ne sais quoi. On doit absolument parler de deux derniers films pour finir cette partie-là et cette émission cette semaine. Peur bleue de Rainy Harlin en 99 et La planète des singes de Rupert Wyatt en 2011. Alors ces films-là, ils sont vraiment là, on est à deux. On fait un immense grand écart là, je plonge dans l'âme, parce que Peur bleue nous propose l'idée que des requins génétiquement modifiés deviennent intelligents au point de pouvoir ouvrir des portes. Voilà, moi c'est une scène qui m'a vraiment marqué dans Peur bleue.
Ils ont des nageoires.
On est dans un labo sous-marin et vous avez directement des expériences sur des requins pour les rendre plus intelligents, plus balèzes, plus tout. Et évidemment, arrive ce qui devait arriver. Samuel Jackson qui cachetonne se fait manger. C'est une scène assez mythique d'ailleurs de Peur bleue qui est devenue un running
gag. En plein monologue.
Voilà, en plein monologue. Il l'a jamais fini. Peut-être que ça aurait été une bonne scène, mais on ne saura jamais maintenant. et ce labo est envahi, inondé, donc ce qui a permis aux requins de se trimballer dans les couloirs. Et la scène mythique du film, c'est évidemment cette femme qui ferme une porte directement sur le tronche d'un requin, on dit bah c'est bon, on l'est sauvé. Eh ben non, le requin il ouvre la porte. Voilà. Alors après, moi, le mystère, c'est que comme ça c'est hors champ, est-ce que le requin l'a ouvert avec son nez ou avec sa nageoire? Ça, c'est un grand mystère de l'histoire du cinéma pour moi. Mais on est dans n'importe quoi, mais avec une base scientifique. Et évidemment, La planète des singes de Rupert Wyatt, où cette fois-ci, c'est un traitement contre Alzheimer, en fait, qui est à l'origine, justement, donc dans les origines de cette nouvelle franchise qui a été lancée, on nous explique que c'est un mec qui veut combattre Alzheimer, donc le docteur incarné par James Franco. Ça marche, et ce qui fait que les singes deviennent des humains, quoi, clairement. Et là, on a un angle vraiment très intéressant. Ils partent tous les deux de la même base, hein, c'est-à-dire qu'on veut faire progresser l'humain.
Peur bleue aussi, c'est pour Alzheimer en plus. Hein.
En plus, voilà. Donc, mais il y en a un qui est tombé dans le relativement n'importe quoi et l'autre qui est tombé dans une franchise, on va dire, de qualité. Hein. On va pas parler de grands blockbusters d'auteur, puisque c'est un mot un petit peu incohérent, non. Mais on est dans vraiment le haut du panier des blockbusters de ces 10 dernières années.
Hein. Oui, ça a été bien réfléchi.
Alors, Juliette, sur l'angle scientifique, et puis après, Thomas, sur l'angle ciné.
Alors, si tu veux, Peur bleue, j'aurais imaginé comme toi qu'il n'y avait aucune base scientifique, finalement. Et la partie recombinaison de requins qui fait que voilà, il est super méchant, non. Mais il y a des protéines de requins qui sont utilisées quand même en médecine, en science. C'est super intéressant parce que, justement, on a trouvé des choses pour soigner la maladie de Parkinson, une molécule qui s'appelle la squalamine, et même des protéines de requin, donc ce qui est la base de Peur bleue, hein, pour soigner le Covid dans les cellules humaines. Donc, il y a quand même un fond de vérité dans le film, de vérité scientifique.
Alors, on avait programmé la Shark Protection la semaine dernière, donc ça tombe bien. Finalement, on a un intérêt à garder des requins en vie, ce qui est plutôt cool. C'est le message de Peur bleue. Hein. S'il devait y avoir un message utile de ce film-là, en dehors de ne faites pas des films n'importe comment, il y avait aussi ce message-là qui était important.
Ils ont fait quand même un petit hommage à Jaws, aux dents de la mer. Les trois requins, ils meurent de la même façon que les trois premiers requins, enfin que les requins des trois premiers dents de la mer.
Notre substance permet au cerveau de se régénérer. On l'appelle le remède. Nous sommes prêts à passer à la phase suivante. Celui-là.
C'est mal, Will.
Ce truc a le pouvoir de changer des vies.
Il y a des choses qui ne sont pas censées être changées.
Ça marche. Comme prévu. Sauf sur un seul point. La substance accroît radicalement l'activité cérébrale.
Elle augmente l'intelligence ?
Alors, la planète des singes, c'est vrai que là, dans cette partie-là, sur les blockbusters et les labos, on sent que c'est le plus respectable qui a été fait vraiment depuis 10 ans. Alors, respectable, bon, après, c'est une notion vraiment abstraite. Mais il y a vraiment, on sent le travail de cohérence scientifique. Hein, Thomas, c'est vraiment essentiel dans ce film-là. Et ça marche très, très bien.
Oui, ça marche très bien. Et on se dit que, bah, bon, alors évidemment, le héros cherche en dehors d'un lien familial au début, on s'aperçoit qu'effectivement son père a la maladie d'Alzheimer, donc du coup ça accélère ses recherches, ça accélère le fait qu'il teste lui-même son médicament sur son père. Ce qui ne serait jamais arrivé évidemment s'il n'y avait pas eu un lien fort au niveau émotionnel. Et donc du coup on se rend compte que bah, voilà, c'est toujours quand effectivement les règles ne sont pas spécialement suivies, les règles éthiques qu'on met tous en place, que ça devient le bazar. Et c'est formidable de voir ça à l'écran, et c'est une super bonne idée pour expliquer le fait que les singes soient devenus intelligents. Après, moi, j'ai une petite préférence dans l'idée que on ne puisse pas savoir ce qui les a fait évoluer, un peu comme dans la planète des singes de 68.
On découvre la fin,
qu'on ne sache pas réellement, parce que finalement, on ne découvre pas ce qui les a rendus.
On a une bonne idée quand même. Ils les ont fait sauter leur satanée bombe.
mais c'est une sorte d'évolution qui est très longue sur le temps. Alors que là, voilà, l'évolution dans les trois films, elle est sur 20 ans, quoi. 25 ans, quoi.
Alors la question à 1 million de dollars pour Juliette, pour clore ce chapitre, est-ce que scientifiquement c'est crédible en fait de développer Alzheimer par des animaux qui deviennent, on va dire progressivement, des super animaux? C'est aussi la thématique de mon...
Le film, ça parle de la thérapie génique, donc c'est crédible, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup fait à l'heure actuelle pour soigner toutes les maladies neurodégénératives et plein d'autres maladies de cancer et tout ça. Après, il n'y a rien qui est aussi rapide que dans le film. Après, il y a toujours aussi la question éthique. Est-ce que vraiment on a envie de donner une conscience et une intelligence à un animal qu'on va garder en cage? Enfin, les humains, qu'est-ce qu'on fait pour les punir? On les met en cage. Donc, il y a tout ça. Et dans tous les films, de toute façon, c'est ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a Peur Bleue, c'est aussi pour soigner sa mère, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il y a toujours un fond émotionnel, mais d'une personne. On ne voit pas assez les équipes. C'est toujours des équipes, les scientifiques. Et du coup, peut-être qu'il y aurait plus de freins. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pour dire que on est faillible, quoi. C'est la plus grande menace pour l'homme, c'est l'homme, finalement.
Alors justement, pour clore cette émission, les savants les plus faillibles du cinéma sont souvent les plus cons. Et je vous propose, en 5 questions à choix multiples, de parcourir quelques savants parmi les plus débiles de l'histoire du cinéma.
Je peux poser une question avant ?
Non.
Est-ce qu'il y aura un savant de Marseille ?
C'est possible. Si tu me tentes, tu auras peut-être un savant de Marseille. Ne me tente pas. Vous jouez également en nous écoutant à BCOD. Si vous êtes meilleur que nos chroniqueurs, vous nous envoyez votre candidature. Question 1, moi je voulais vous citer, en fait, c'est un réalisateur en 73 qui décide d'imaginer la pire invasion de femmes du monde. Mais quelle est la particularité de ces femmes ? A, B, C ou D ? Est-ce que ce sont des femmes mouches, des femmes abeilles, des femmes volages ou des femmes de Pigalle ?
Des femmes mouches ?
Des femmes mouches, et non, c'est pas des femmes mouches.
Des
femmes volages non plus. Et non, il reste les femmes abeilles, effectivement, un film de Dennis Sanders en 1973, La pire invasion des femmes abeilles. Là, c'est quand même assez incroyable. Ça existe, hein. On est dans les savants les plus cons, hein, donc forcément je suis relativement dans le thème. Moi, c'est une mutation génétique, la deuxième que je voulais vous proposer, vraiment une mutation d'un gros programmation, ce que vous voulez, en tout cas ABC ou D, Underdog, chien volant.
Recombinaison.
Vous me dites quel est le titre qui existe en fait dans les quatre, hein. Underdog, chien volant, Underdog, chien mutant, Underdog, chien moche, ou Underdog, le Yorkshire qui pue. A, B, C ou D.
Oh non.
Ah. Non, 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 un Yorkshire qui pue, quoi. Vraiment. C'est le mec, il dit, bon, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme mutation à un chien? Je veux qu'il pue vraiment, quoi. Tu vois, c'est vraiment le scientifique, non, mais, les ignobels, quoi.
Un film de 2007. De c'est Francis ça du Chasse. Ouais. Un film de 2007. Comment ça, quel est le vrai titre, là? Non, c'est pas Yorkshire qui pue, hein, évidemment. C'est ouais, Underdog, c'est chien volant, en 2007. Ouais. Ouais, ouais, ça existe. On parle de Bruce Willis la semaine prochaine, parce qu'évidemment, on a appris la nouvelle de son aphasie. Donc, c'est l'émission de la semaine prochaine. Un grand merci, en tout cas, et puis bisous à tous.
À bientôt.
Tchuss.
Moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
Cette semaine, la chronique pas tout à fait dans le thème de Mathieu, comme toutes les semaines, vous propose d'approfondir les thèmes que nous étudions dans notre émission. Et Mathieu, t'as choisi de nous parler d'un manga qui est devenu culte, qui est le manga donc de Naoki Urasawa. Et ce manga, c'est Monster.
Alors oui, Monster, qui est un manga et un animé, hein, il y a 74 épisodes. C'est assez long, mais la tension ne baisse pas. Vraiment, on est pris du début à la fin dans cette histoire pour non pas une opération qui tourne mal, mais une opération qui tourne très bien, mais peut-être qu'elle n'aurait pas dû. L'histoire est, enfin, le début de l'histoire est la suivante. On est en 1986 en Allemagne, à Düsseldorf, un neurochirurgien extrêmement brillant japonais qui s'appelle Kenzo Tema. On lui demande de prioriser l'opération du maire alors qu'un jeune enfant vient d'arriver avec une balle dans la tête, et il dit non. Mon talent sera plus utile pour ce jeune enfant, et il sauve la vie de ce jeune enfant.
Un but très très léger, hein, tout de suite, oui. Évidemment. Hein,
on n'est pas dans l'opération qui tourne mal. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque 9 ans plus tard, Kenzo Tema, donc le chirurgien, se rend compte que ce jeune enfant qu'il a sauvé est devenu un tueur en série, qui défraye la chronique dans toute l'Allemagne, et donc va mener l'enquête, se sentant responsable, parce que c'est grâce à lui qu'il est en vie, va mener l'enquête et découvrir que derrière ce monstre s'en cache peut-être d'autres, qui est une espèce de grand complot, enfin en tout cas de poupée russe, hein, un mystère dans un mystère dans un mystère, qui va l'emmener. C'est extrêmement fin, extrêmement bien écrit. Alors on est en Allemagne, donc on se doute un petit peu de l'ambiance que ça va prendre, puisque 20 ans avant les années 80, c'était les années 60, et l'Allemagne de l'Est dans les années 60, voilà, on peut tout à fait imaginer dans quel type ça prend.
Bah, on néanmoins, rappeler, hein, d'ailleurs, ils envoyaient des femmes enceintes aux Jeux Olympiques qui étaient un dopage naturel. Il y avait aussi le dopage qui était endémique.
Voilà, dans on est sur ce type de questions. Voilà. On est sur des types de questions de génie, de volonté de créer un être supérieur. Mais néanmoins, l'histoire est vraiment finement écrite. On doute en permanence de mais qui nous mène en bateau ou pas. Le personnage de Kenzo Tema, qui était ce médecin hyper brillant à qui tout était promis et qui ce jour-là eh bien, a saboté sa carrière pour sauver un enfant qui, au final, sera un tueur en série et donc est en plein doute. On le voit tomber dans des affres, ce genre de choses, et se reconstruire par cette enquête qu'il mène pour comprendre qui est cet enfant et donc qui il est à travers lui. C'est passionnant. Donc voilà, à lire, je vous le conseille, à voir en animé. J'allais dire, c'est encore mieux. Pas forcément, chacun fait comme
il veut. Oui, chacun va midi à sa porte.
Oui, voilà, chacun a sa préférence. Mais on a 18 volumes du manga et 74 épisodes dedans. Ça se dévore.
On voit la densité. Et puis également, déjà, de par le conflit moral dès le début de la situation telle qu'elle est exposée, on voit bien la profondeur de ce manga. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment à rappeler, parce que finalement il a été édifié que deux fois, hein, cet animé en France.
Alors il est trouvable en DVD, hein, il y a un très beau coffret qui existe en DVD pour ceux qui veulent le voir. Il est également édité très facilement, c'est chez Kana que vous le trouvez. Il existe même en grand volume, je vous conseille, parce que les dessins sont vraiment jolis.
Oui.
il y a beaucoup de dessins un petit peu de la campagne allemande ou de grandes bâtisses. On n'est pas du tout sur un style épuré, très action, très shonen. Oui. Non, pas du tout. On est vraiment sur du manga qui est parfois contemplatif, ce genre de choses. Et quand vous avez toute une brasserie allemande qui est dessinée, c'est agréable de l'avoir en grand volume. Et l'animé aussi le rend très très bien. Mais voilà, on a ce dépaysement du milieu des années 80 en Allemagne, et cette histoire qui est certes sombre, mais excessivement prenante, qui, encore une fois, je vous l'indique, il y a plusieurs monstres dedans, et c'est pas forcément toujours ce qu'on croit, qui fait que c'est une lecture sur laquelle on ne s'arrête pas.
Merci beaucoup Mathieu pour ce manga et cet animé légendaire. Il était vraiment très important de le relever parce que les labos, on l'a vu hein, sur les écrans, sur les grands écrans, ça donne évidemment énormément de scripts plus ou moins intéressants. En tout cas, toujours ce conflit du labo positif ou négatif. Là, on a un peu des deux. Merci beaucoup Mathieu.
À la prochaine.
Salut.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça?